Chapitre 10 Sur l'athéisme. La nuit était venue, elle était belle. L'atmosphère était une voûte d'azur transparent, semée d'étoiles d'or. Ce spectacle touche toujours les hommes et leur inspire une douce rêverie. Le bon Baruba admirait le ciel comme un Allemand admire Saint-Pierre de Rome ou l'Opéra de Naples, quand il le voit pour la première fois. « Cette voûte est bien hardie, » disait Paruba à Freyne. Et Freyne lui disait, « Mon cher Paruba, il y a point de voûte. Ce cintre bleu n'est autre chose qu'une étendue de vapeur, de nuages légers, que Dieu a tellement disposé et combiné avec la mécanique de vos yeux, qu'en quelque endroit que vous soyez, vous êtes toujours au centre de votre promenade, et vous voyez ce qu'on nomme le ciel, » et qu'il n'est point le ciel arrondi sur votre tête. Et ces étoiles, monsieur Freyne, ce sont, comme je vous l'ai dit, autant de soleils autour desquels tournent d'autres mondes. Loin d'être attachées à cette voûte bleue, souvenez-vous qu'elles en sont à des distances différentes et prodigieuses. Cette étoile que vous voyez est à 1 200 000 000 pas de notre soleil. » Alors il lui montra le télescope qu'il avait apporté. Il lui fit voir nos planètes. Jupiter avec ses 4 lunes, Saturne avec ses 5 lunes et son inconcevable anneau lumineux. « C'est la même lumière, lui disait-il, qui part de tous ces globes et qui arrive à nos yeux. De cette planète-ci en 1/4 d'heure, de cette étoile-ci en 6 mois. » Paruba se mit à genoux et dit « Les cieux annoncent Dieu. » Tout l'équipage était autour du vénérable Freyne, regardait et admirait. Le coriace Burton avança sans rien regarder et parla ainsi. « Eh bien, soit, il y a un Dieu, je vous l'accorde, mais qu'importe à vous et à moi? Qu'y a-t-il entre l'être infini et nous autres vers de terre? Quel rapport peut-il exister de son essence à la nôtre? Épicure, en admettant des dieux dans les planètes, avait bien raison d'enseigner qu'ils ne se mêlaient nullement de nos sottises et de nos horreurs, que nous ne pouvions ni les offenser ni leur plaire, qu'ils n'avaient nul besoin de nous, ni nous deux. Vous admettez un dieu plus digne de l'esprit humain que les dieux d'Épicure et que tous ceux des Orientaux et des Occidentaux. Mais si vous disiez, comme tant d'autres, que ce Dieu a formé le monde et nous pour sa gloire, qu'il exigea autrefois des sacrifices de bœufs pour sa gloire, qu'il apparut pour sa gloire sous notre forme de bipède, etc., vous diriez, ce me semble, une chose absurde qui ferait rire tous les gens qui pensent. L'amour de la gloire n'est autre chose que de l'orgueil, et l'orgueil n'est que de la vanité. Un orgueilleux est un fat que Shakespeare jouait sur son théâtre. Cette épithète ne peut plus convenir à Dieu que celle d'injuste, de cruel, d'inconstant. Si Dieu a daigné faire, ou plutôt arranger l'univers, ce ne doit être que dans la vue d'y faire des heureux. Je vous laisse à penser s'il est venu à bout de ce dessein, le seul pourtant qui put convenir à nature divine. Freyne. « Oui, sans doute, mais il y a réussi avec toutes les âmes honnêtes. Elles seront heureuses un jour, si elles ne sont pas aujourd'hui. »« Heureuses ! Quel rêve ! Quel conte de peau d'âne ! Mais où ? Quand ? Comment ? Qui vous l'a dit ?»« Sa justice. Oh, n'allez-vous pas me dire, après tant d'éclamateurs, que nous vivrons éternellement, quand nous ne serons plus ?» Que nous possédons une âme immortelle, ou plutôt qu'elle nous possède, après nous avoir avoué que ces Juifs eux-mêmes, les Juifs auxquels vous vous vantez d'avoir été subrogés, n'ont jamais soupçonné seulement cette immortalité de l'âme jusqu'au temps d'Hérode. Cette idée d'une âme immortelle avait été inventée par les Brachmanes, adoptée par les Perses, les Chaldéens, les Grecs, ignorée très longtemps de la malheureuse petite horde judaïque, mère des plus infâmes superstitions. Hélas, monsieur, savons-nous seulement si nous avons une âme? Savons-nous si les animaux, dont le sang fait la vie comme il fait la nôtre, qui ont comme nous des volontés, des appétits, des passions, des idées, de la mémoire, de l'industrie, savez-vous, dis-je, si ces êtres aussi incompréhensibles que nous ont une âme, comme on prétend que nous en avons une? J'avais cru, jusqu'à présent, qu'il est dans la nature une force active dont nous tenons le don de vivre dans tout notre corps, de marcher par nos pieds, de prendre par nos mains, de voir par nos yeux, d'entendre par nos oreilles, de sentir par nos nerfs, de penser par notre tête, et que tout cela était ce que nous appelons l'âme. Mot vague, qui ne signifie au fond que le principe est connu de nos facultés. J'appellerai Dieu avec vous ce principe intelligent et puissant qui anime la nature entière. Mais a-t-il daigné se faire connaître à nous? Oui, par ses œuvres. Mais nous a-t-il dicté ses lois? Nous a-t-il parlé? Oui, par la voix de notre conscience. N'est-il pas vrai que si vous aviez tué votre père et votre mère, cette conscience vous déchirerait par des remords aussi affreux qu'involontaires? Cette vérité n'est-elle pas sentie et avouée par l'univers entier? Descendons maintenant à de moindres crimes. Y en a-t-il un seul qui ne vous effraie au premier coup d'œil, qui ne vous fasse pâlir la première fois que vous le commettez, et de qui ne laisse dans votre cœur l'aiguillon du repentir? Oui, il faut que je l'avoue. Dieu vous a donc expressément ordonné, en parlant à votre cœur, de ne vous souiller jamais d'un crime évident. Et quant à toutes ces actions équivoques que les uns condamnent et que les autres justifient, qu'avons-nous de mieux à faire que de suivre cette grande loi du premier des Zoroastres, tant remarquée de nos jours par un auteur français? Quand tu ne sais si l'action que tu médites est bonne ou mauvaise, abstiens-toi, Burton. Cette maxime est admirable. C'est sans doute ce qu'on n'a jamais dit de plus beau, c'est-à-dire de plus utile en morale. Et cela me ferait presque penser que Dieu a suscité de temps en temps des sages qui ont enseigné la vertu aux hommes égarés. Bon, je vous demande pardon d'avoir raillé de la vertu. Demandez-en pardon à l'être éternel, qui peut la récompenser éternellement et punir les transgresseurs. Quoi? Dieu me punirait éternellement de m'être livré à des passions qu'il m'a données? Il vous a donné des passions avec lesquelles on peut faire du bien et du mal. Oh, je ne vous dis pas qu'il vous punira jamais, ni comment il vous punira, car personne n'en peut rien savoir. Je vous dis qu'il le peut. Les Brahmanes furent les premiers qui imaginèrent une prison éternelle pour les substances célestes qui s'étaient révoltées contre Dieu dans son propre palais. Il les enferma dans une espèce d'enfer qu'ils appelaient Ondera. Mais au bout de quelques milliers de siècles, il adoucit leur peine, les mit sur la terre et les fit hommes. Et c'est de là que vient notre mélange de vice et de vertu, de plaisir et de calamité. Cette imagination est ingénieuse. La fable de Pandore et de Prométhée l'est encore davantage. Des nations grossières ont imité grossièrement la belle fable de Pandore. Ces inventions sont des rêves de la philosophie orientale. Tout ce que je puis vous dire, c'est que si vous avez commis des crimes en abusant de votre liberté, il vous est impossible de prouver que Dieu soit incapable de vous en punir. Je vous en défie. Burton, attendez. Vous pensez que je ne peux pas vous démontrer qu'il est impossible au grand être de me punir? Par ma foi, vous avez raison. J'ai fait ce que j'ai pu pour me prouver que cela était impossible. Et je n'en suis jamais venu à bout. J'avoue que j'ai abusé de ma liberté et que Dieu peut m'en châtier, mais pardieu, je ne serai pas puni quand je ne serai plus. Le meilleur parti que vous ayez à prendre est d'être honnête homme, tandis que vous existez. D'être honnête homme pendant que j'existe. Oui, je l'avoue, oui. Vous avez raison, c'est le parti qu'il faut prendre. Je voudrais, mon cher ami, que vous eussiez été témoin de l'effet que firent les discours de Freine sur tous les Anglais et sur tous les Américains. Burton, si évaporé et si audacieux, prit tout à coup un air recueilli et modeste. Jenny, les yeux mouillés de larmes, se jeta aux genoux de son père, et son père l'embrassa. Voici enfin la dernière scène de cette dispute si épineuse et si intéressante. Chapitre 11 de l'athéisme. Burton. Je conçois bien que le grand être, le maître de la nature, est éternel. Mais nous, qui n'étions pas hier, pouvons-nous avoir la folle hardiesse de prétendre à une éternité future? Tout périt sans retour autour de nous, depuis l'insecte dévoré par l'hirondelle jusqu'à l'éléphant mangé des vers. Fine. Non, non, rien ne périt, tout change. Les germes impalpables des animaux et des végétaux subsistent, se développent et perpétuent les espèces. Pourquoi ne voudriez-vous pas que Dieu, conservant le principe qui vous fait agir et penser, de quelque nature qu'il puisse être? Dieu me garde de faire un système, mais certainement il y a dans nous quelque chose qui pense et qui veut. Et ce quelque chose, que l'on appelait autrefois une monade, ce quelque chose est imperceptible. Dieu nous l'a donné, ou peut-être, pour parler plus juste, Dieu nous a donné à lui. Êtes-vous bien sûr qu'il ne peut le conserver? Songez, examinez. Pouvez-vous m'en fournir quelques démonstrations? Burton. Non, j'en ai cherché dans mon entendement, dans tous les livres des athées et surtout dans le troisième chant de Lucrèce. Oh, j'avoue que je n'ai jamais trouvé que des vraisemblances. Et sur ces simples vraisemblances, nous vous abandonnerions à toutes nos versions funestes. Mais nous vivrions en brut, n'ayant pour règle que nos appétits et pour frein que la crainte des autres hommes rendus éternellement ennemis les uns des autres par cette crainte mutuelle. Car on veut toujours détruire ce qu'on craint. Pensez-y bien, monsieur Burton. Réfléchissez-y sérieusement, mon fils génie. N'attendre de Dieu ni châtiment ni récompense, c'est être véritablement athée. À quoi servirait l'idée d'un Dieu qui n'aurait sur vous aucun pouvoir? C'est comme si on disait, il y a un roi de la Chine qui est très puissant. Je réponds, grand bien lui fasse, qu'il reste dans son manoir et moi dans le mien. Je ne me soucie pas plus de lui qu'il ne se soucie de moi. Il n'y a pas plus de juridiction sur ma personne qu'un chanoine de Windsor en a sur un membre de notre parlement. Alors je suis mon Dieu à moi-même. Je sacrifie le monde entier à mes fantaisies, si j'en trouve l'occasion. Je suis sans loi, je ne regarde que moi. Si les autres êtres sont moutons, je me fais loup, et s'ils sont poules, je me fais renard. Je suppose, ce qu'à Dieu ne plaise, que toute notre Angleterre soit athée par principe. Je conviens qu'il pourra se trouver plusieurs citoyens qui, nés tranquilles et doux, assez riches pour n'avoir pas besoin d'être injustes, gouvernés par l'honneur et par conséquent attentifs à leur conduite, pourront vivre ensemble, en société. Ils cultiveront les beaux-arts par qui les mœurs s'adoucissent. Ils pourront vivre dans la paix, dans l'innocente gaieté des honnêtes gens. Mais l'athée, pauvre et violent, sûr de l'impunité, sera un sot s'il ne vous assassine pas pour voler votre argent. Dès lors, tous les liens de la société sont rompus. Tous les crimes secrets inondent la terre, comme les sauterelles, à peine d'abord aperçues, viennent ravager les campagnes. Le bas peuple ne sera qu'une horde de brigands, comme nos voleurs dont on ne rend pas la dixième partie à nos sessions. Ils passent leur misérable vie dans les tavernes avec des filles perdues. Ils les battent, ils se battent entre eux. Ils tombent ivres au milieu de leurs pannes de plomb dont ils se sont cassés la tête. Ils se réveillent pour voler et pour assassiner. Ils recommencent chaque jour ce cercle abominable de brutalité. Qui retiendra les grands et les rois dans leur vengeance, dans leur ambition à laquelle ils veulent tout immoler? Un roi athée est plus dangereux qu'un ravaillac fanatique. Les athées fourmillaient en Italie au XVe siècle. Qu'en arriva-t-il? Il fut aussi commun d'empoisonner que de donner à souper et d'enfoncer un stylet dans le cœur de son ami que de l'embrasser. Il y eut des professeurs du crime, comme il y a aujourd'hui des maîtres de musique et de mathématiques. On choisissait exprès les temples pour y assassiner les princes au pied des autels. Le pape de Sixte IV et un archevêque de Florence firent assassiner ainsi les deux princes les plus accomplis de l'Europe. Mon cher Sherlock, dites, je vous prie, à Paruba et à ses enfants ce que c'est qu'un pape et un archevêque, et dites-leur surtout qu'il n'est plus de pareils monstres. Mais continuons. Un duc de Milan fut assassiné de même au milieu d'une église. On ne connaît que trop les étonnantes horreurs d'Alexandre VI. Si de telles mœurs avaient subsisté, l'Italie aurait été plus déserte que ne l'a été le Pérou après son invasion. La croyance d'un Dieu rémunérateur des bonnes actions, punisseur des méchants, pardonneur des fautes légères, est donc la croyance la plus utile au genre humain. C'est le seul frein des hommes puissants qui commettent innocemment des crimes publics. C'est le seul frein des hommes qui commettent adroitement des crimes secrets. Je ne vous dis pas, mes amis, de mêler à cette croyance nécessaire des superstitions qui la déshonoreraient et qui même pourraient la rendre funeste. L'athée est un monstre qui ne dévorera que pour apaiser sa faim. Le superstitieux est un autre monstre qui déchirera les hommes par devoir. J'ai toujours remarqué qu'on peut guérir un athée, mais on ne guérit jamais le superstitieux radicalement. L'athée est un homme d'esprit qui se trompe, mais qui pense par lui-même. Le superstitieux est un sot brutal qui n'a jamais eu que des idées des autres. L'athée violera Iphigénie, prête d'épouser Achille, mais le fanatique l'égorgera pieusement sur l'autel et croira que Jupiter lui en aura beaucoup d'obligations. L'athée dérobera un vase d'or dans une église pour donner à souper à des filles de joie, mais le fanatique célébrera un auto-da-fé dans cette église et chantera un cantique juif à plein gosier en faisant brûler des juifs. Oui, mes amis, l'athéisme et le fanatisme sont les deux pôles d'un univers de confusion et d'horreur. La petite zone de la vertu est entre ces deux poils. Marchez d'un pas ferme dans ce sentier. Croyez à Dieu bon et soyez bons. C'est tout ce que les grands législateurs Locke et Penn demandent à leur peuple. Répondez-moi, monsieur Burton, vous et vos amis. Quel mal peut vous faire l'adoration d'un Dieu joint au bonheur d'être honnête homme? Nous pouvons tous être attaqués d'une maladie mortelle au moment où je vous parle. Qui de nous alors ne voudrait pas avoir vécu dans l'innocence? Voyez comme notre méchant Richard III meurt dans Shakespeare, comme les spectres de tous ceux qu'il a tués viennent épouvanter son imagination. Voyez comme expire Charles IX de France après sa Saint-Barthélemy. Son chapelain a beau lui dire qu'il a bien fait, Son crime le déchire, son sang jaillit par ses pores, et tout le sang qu'il fit couler crie contre lui. Soyez sûr que de tous ces monstres, il n'en est aucun qui n'ait vécu dans les tourments du remords et qu'il ait fini dans la rage du désespoir. Chapitre 12 et dernier. Retour en Angleterre. Mariage de Jenny. Burton et ses amis ne purent tenir davantage. Ils se jetèrent aux genoux de Freine. « Oui, dit Burton, je crois en Dieu et en vous. » On était déjà près de la maison de Paruba. On y soupa, mais Jenny ne put souper. Il se tenait à l'écart, il fondait en larmes. Son père alla le chercher pour le consoler. « Ah, lui dit Jenny, je ne méritais pas d'avoir un père tel que vous. Je mourrais de douleur d'avoir été séduit par cet abominable Clive Hart. Je suis la cause, quoique innocente, de la mort de Primrose, et tout à l'heure, quand vous avez parlé d'empoisonnement, un frisson m'a saisi. J'ai cru voir Clive Hart présentant le breuvage horrible à Primrose. Oh ciel, oh Dieu, comment ai-je pu avoir l'esprit assez aliéné pour suivre une créature si coupable? Mais elle me trompa, j'étais aveugle. Je ne fus détrompé que peu de temps avant qu'elle fût prise par les sauvages. Elle me fit presque l'aveu de son crime dans un mouvement de colère. Oh, depuis ce moment, je l'use en horreur, et pour mon supplice, l'image de Primrose est sans cesse devant mes yeux. Je la vois, je l'entends. Elle me dit « Je suis morte parce que je t'aimais. » Monsieur Freine se mit à sourire, d'un sourire de bonté dont Jenny ne put comprendre le motif. Son père lui dit qu'une vie irréprochable pouvait seule réparer les fautes passées. Il le ramena à table comme un homme qu'on vient de retirer des flots où il se noyait. Je l'embrassai, je le flattai, je lui donnai du courage. Nous étions tous attendris. Nous appareillâmes le lendemain pour retourner en Angleterre après avoir fait des présents à toute la famille de Paruba. Nos adieux furent mêlés de larmes sincères. Burton et ses camarades, qui n'avaient jamais été qu'évaporés, semblaient déjà raisonnables. Nous étions en pleine mer quand Freine dit à Jenny, en ma présence, « Eh bien, mon fils, le souvenir de la belle, de la vertueuse étante Primrose vous est donc toujours cher. » Jenny se désespéra à ces paroles. Les traits d'un repentir inutile et éternel perçait son cœur, et je craignis qu'il ne se précipitât dans la mer. « Eh bien, lui dit Freine, consolez-vous, Primrose est vivante et elle vous aime. » Freine, en effet, en avait reçu des nouvelles sûres de ce domestique affidé qui lui écrivait par tous les vaisseaux qui partaient pour le Maryland. Monsieur Med, qui a depuis acquis une si grande réputation pour la connaissance de tous les poisons, avait été assez heureux pour tirer Primrose des bras de la mort. Monsieur Freine fit voir à son fils cette lettre qu'il avait relue tant de fois et avec tant d'attendrissement. Jenny passa en un moment de l'excès du désespoir à celui de la félicité. Oh, je ne vous peindrai point les effets de ce changement si subit. Plus j'en suis saisi, moins je puis les exprimer. Ce fut le plus beau moment de la vie de Jenny. Burton et ses camarades partagèrent une joie si pure. Que vous dirai-je enfin? L'excellent Freine leur a servi de père à tous. Les noces du beau Jenny et de la belle Primrose se sont faites chez le docteur Med. Nous avons marié aussi Brighton, qui était tout changé. Jenny et lui sont aujourd'hui les plus honnêtes gens de l'Angleterre. Vous conviendrez qu'un sage peut guérir des fous.